Bellevue Monument, parcours urbain radiophonique, une proposition de l'équipe du Compas dans l'œil.
C'est le son qui va nous guider, c'est le son.
Monument, édifice remarquable. Remarquable, digne d'attirer l'attention.
C'est le son qui va nous guider, c'est le son.
Bonne chance.
Merci.
Nous sommes ici au parc Bellevue. Si on parle aux gens du parc Bellevue, leur quartier, c'est le parc Bellevue. Ou si on parle aux gens de la Butte, leur quartier, c'est la Butte Bellevue. Parce que nous sommes dans une... Ici, nous sommes un peu dans le vallon, dans le val, et plus haut, la colline, comme je le dis toujours, une des 7 collines de Marseille. Et donc, si vous voulez, ceux du haut, ils disent, c'est notre quartier. Ceux du bas disent, c'est notre quartier. Non, notre quartier, c'est Saint-Mauron. Et Saint-Mauron, c'est le tout.
Bien avant l'indépendance de l'Algérie, j'étais déjà là. J'étais à la villette à côté. Le quartier n'était pas encore construit. Mon école, je la faisais ici. Je me rappelle, j'étais un peu, moi aussi, turbulent. Et quand j'ai eu mon certificat d'études, je suis allé pour passer mon certificat d'études. Mes parents, ils m'ont massacré parce que je n'étais pas allé plus loin. Ben, je ne suis arrivé pas. J'habitais à la villette. Ils devaient démolir. Et on est arrivé un peu avant. Dans les années 65, 64, on était venu ici déjà s'installer. On était 2 ou 3 maghrébins qui étaient sur le site, pas plus. Hein. Tout le reste, c'était des Pieds-Noirs, c'était des gens qui venaient de Tunisie. Et que le parc Bellevue ne s'appelait même pas le parc Bellevue, c'était la cité Bourguiba. Parce qu'à l'époque, il y avait Bourguiba qui était président de la République. La cité Bourguiba, parce qu'il y avait beaucoup de Tunisiens qui venaient de là-bas, des Maltais, des Italiens. Il y en a qui étaient locataires, il y en a qui ont acheté. Et après, dans les années 74, 75, ça a commencé à se dégrader. Il y avait beaucoup de gens, des propriétaires qui louaient à n'importe qui, aux plus offrants. Et voilà, ça a commencé à se dégrader, voilà. On est tombé dans un cadre où personne ne pouvait vivre, qu'il y avait des squats, qu'il y avait des gens...
Dans toutes les opérations que je connais, qui ont subi plein d'aléas, par exemple, hein, plein de revirements, Plan Dao est une bonne expérience, Bellevue, c'est peut-être un des cas où il y a eu une continuité politique assez importante. Moi, j'ai vécu, alors, le plus important dans ma vie à Bellevue, dans ma vie professionnelle à Bellevue, ça a été le avant plan de sauvegarde et le après plan de sauvegarde. Mais du point de vue de l'attitude de la ville de Marseille, hein, à partir du moment où les choses se sont vraiment mises en place, 96, je dirais même à partir du moment où on a franchi l'étape des élections, il y a quand même eu une continuité de la volonté municipale de faire quelque chose. Il faut dire qu'à Bellevue, en 91, quand je suis arrivé, on était arrivé à un point où personne ne pouvait dire qu'on ne pouvait rien faire. C'était une situation très très difficile, et de l'intérieur et de l'extérieur. Ça se voyait vraiment à l'extérieur. Et aujourd'hui, on continue à me dire on y va. Donc, sur ce plan-là, je trouve qu'il y a eu vraiment une continuité. Maintenant, je vous dis, moi, dans l'attitude, il y a ce qui s'est passé avant le plan de sauvegarde, c'est-à-dire la ville de Marseille était un peu toute seule pour essayer de mettre en place des actions, et on allait voir les gens qui étaient plutôt des financeurs, c'est-à-dire qui disaient « Ah oui, on veut voir, expliquez-nous comment ça va marcher, est-ce que vous avez fait des enquêtes ?» Voilà, et ça c'était un peu difficile parce qu'ils voulaient voir avant de dire ce qu'ils allaient financer.
Bonjour, en fait, je suis venu depuis en 95 dans le site de Parc Bellevue.
Ma mère habitait à Consovin. Après, elle a trouvé un appartement sur le 143 rue Félix Piat. Elle est venue au 143 rue Félix Piat. Et depuis, on a pu quitter le 143.
Tout va bien, je travaille, Dieu merci.
Et que bon, maintenant, on dit que c'est la maison. On va dire c'est la maison.
L'an 2000, j'ai cherché appartement A7.
Comme je suis au dernier étage, je vois tout.
Alors, un quartier, ça appartient d'abord et avant tout aux habitants. Et un quartier, il est ce qu'on en fera tous. Malheureusement, on constate que lorsqu'il y a un projet de fait ou lorsqu'il y a quelque chose qui va se faire, on prévient la population ou on les informe, mais les dossiers sont toujours tout ficelés. Je dis toujours, le bon sens populaire, il faut l'écouter, parce que c'est nous qui vivons les réalités.
Quand tu rentres là-dedans pour la première fois, moi je crois que, je pense que c'est ce que j'avais dû faire, c'est me dire bon ben tu fermes ta gueule, tu regardes, tu essaies de comprendre, et puis si tu arrives à comprendre quelque chose, ben à ton petit niveau, tu essaieras de faire quelque chose, quoi. Voilà.
Et puis, il y a eu la période plan de sauvegarde où là, à cause de la structure même réglementaire d'un plan de sauvegarde, les acteurs politiques, les partenaires institutionnels sont des partenaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la ville qui fait et les autres qui regardent et qui comptent les points, hein, qui éventuellement financent. Et d'ailleurs, il a fallu inventer une maîtrise d'ouvrage collective. Hein, comment on fait quand on est l'État, hein, le département, la région et la ville de Marseille, le FACIL, hein, et on se met ensemble, et comment est-ce qu'on assure une maîtrise d'ouvrage ensemble, hein, chacun disant, c'est pas moi qui assume l'action et qui demande des financements aux autres, mais on trouve une méthode, qu'on fasse les choses, qu'on soit tous responsables ensemble. Et ça, c'était extrêmement intéressant, parce qu'après, on a pu reproduire ça sur les autres plans de sauvegarde ailleurs. Hein. Et dans une période, alors là, entre 99 et 99 démarrage du plan de sauvegarde et puis aujourd'hui 2006 où ça commence à on sent maintenant avec le renouvellement du plan de sauvegarde ce partenariat fort un peu évolue avec vraiment une constante dans la répartition des tâches, c'est-à-dire chaque fois c'était on mobilise les crédits de droit commun et puis ce qui reste et bien on se le répartit dans les trois collectivités à part égale.
J'ai envie de vivre comme tout le monde et même le parc. Il faut qu'ils soient comme tout le monde, les quartiers qui sont bons. J'ai envie que le quartier change.
Et c'est un peu fort en fait, Félix Pierre.
Alors, mais je vois le commissariat de police.
Il y a la sensation de zoo avec le gardien de zoo.
Du troisième, puisque ça recouvre tout le troisième qui est bien plus large que notre quartier de Saint-Mauron.
Pierre, donc Pierre, c'est en complet renouvellement depuis 10-15 ans maintenant. Et puis c'est une arlésienne dans le sens où on peut imaginer que dans 150 ans, ils n'auront pas terminé. On a un projet de départ qui est très fort. Donc la parcelle est relativement grande. En tout cas, ils ont mis le maximum de logements qu'ils ont pu dessus. Et puis, ils les ont rangés comme ils savaient faire à l'époque. En faisant des Legos posés à angle droit. Donc, on a les petits Legos D, E, F, G, qui sont des petits bâtiments où il y a 5 étages.
En face de moi, je vois le bâtiment A qui a été réhabilité. Pour ceux qui ont connu cette cité dans les années, au début des années 90, cette barre du bâtiment A était multicolore. Aujourd'hui, elle n'est plus multicolore du tout. Quand on voit la peinture qui a été passée sur les façades, donc ça fait très façade ripollinée, ce qu'on peut se demander, c'est si on n'a pas essayé aussi de ripolliner ce qu'il y a derrière les façades.
Bah, notre expérience en termes de logement social sur la couleur, c'est que pendant certaines années, pas mal de bâtiments étaient peints avec toutes sortes de couleurs, certaines très bariolées. Et il nous semble, à nous, avec le retour de l'expérience, que des traitements beaucoup plus simples, beaucoup plus tenus et beaucoup plus lumineux apportent plus de qualité au bâtiment. Qui est moins focalisé comme étant un logement social. C'est un bâtiment d'habitation comme les autres. Et c'est pour sortir un peu de l'image qui colle à Bellevue d'une cité difficile. Et là, non, c'est un bâtiment comme les autres. Il n'est pas. Il cherche à s'intégrer plutôt qu'à se différencier.
Il y a des mamans comoriennes, des mamans maghrébines, mais chapeau, elles ont élevé 5-10 gamins avec des petits moyens en faisant des ménages à 5 heures du matin. Mais c'est des femmes exceptionnelles qui se retrouvent seules, vieilles, fatiguées et qui ont encore le courage de continuer, d'aller de l'avant. Et, parce qu'il y a des tas de gens incroyables dans cette cité, mais qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à vivre mieux que ce qu'elles ne font. C'est quelque chose qu'elles ont dans la peau, ces bâtiments de Bellevue. Elles ne s'en sortent pas, elles ont beau tourner, virer. Elles sont toujours là. Même celles qui ont les moyens de partir, elles ne partent pas. C'est une sécurité pour elles parce qu'elles sont là depuis longtemps. Elles ont peur de se lancer à l'extérieur. Donc, elles restent là. Et il faut faut l'embellir. C'est ce qui est en train d'être fait. Il y a des arbres maintenant qu'on a attendus pendant 20 ans. Bon, ils poussent un peu tordus, comme je te le disais, mais quand même, ils sont debout, toujours. Ils n'ont pas été cassés, c'est un miracle. On est en train de se battre pour qu'il y ait des aires de jeu. Voilà, peu à peu, les choses s'arrangent. C'est sûr qu'on l'a attendu pendant des années. Ça commence à prendre forme et j'en suis ravie, parce que c'était un taudis.
Je chante que le refrain.
Ne touchez pas le fil du micro, s'il vous plaît, mesdames.
Vas-y, commence, allez, vas-y, commence.
Je vais aller. Allez, vas-y,
regarde. 1, 2, 3.
Alors, ouais, je raconte. Je la raconte.
Allez.
Ouais, je suis un cavier.
Alors, 1, 2, 3.
Alors, ouais, je la raconte.
Fraternité. Mais la pauvre place. Oui, je vois fraternité, c'est super comme thème, la fraternité.
Alors, on est devant quoi, là?
Devant la statue, devant une espèce de monument qui a été érigé après qu'on ait tombé une partie d'immeuble, là. Et c'est vrai que la fraternité, elle est bien mal en point, la pauvre. Voilà, déjà, il lui manque une jambe, c'est dommage. Alors, elle va être bancale, hein. Il faut faire comme si c'était une jolie petite plante. Si on l'arrose pas un peu tous les matins, elle va pas fleurir. Voilà, ben je vois l'école de Bellevue, là, du parc Bellevue.
Quand je suis arrivée là, mais j'avais peur parce que je savais même pas que ça existait, un endroit pareil. Et j'avais peur, j'avais envie de pleurer, je comprenais pas. J'étais en colère contre moi-même de ne pas savoir qu'à 1 kilomètre du quartier Saint-Lazare d'où je viens, eh ben, il y avait une cité aussi délabrée que celle-là. C'était en 1983. C'était mon premier poste. Donc je suis arrivée là, je n'étais pas titulaire. Et en fait, j'ai été titularisée l'année d'après. Et puis j'y suis restée. J'y suis restée parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Beaucoup de travail, au moins on sert à quelque chose ici. J'ai voulu ouvrir les enfants vers l'extérieur, pas obligatoirement vers le monde au début, c'était l'extérieur. J'ai voulu les emmener au musée, au cinéma, au théâtre, à la ferme pédagogique, dans les bibliothèques, parce que les gamins ici n'ont rien. Ils partent pas en vacances, ils n'ont pas d'ordinateur, pas de livres, ils n'ont rien. J'ai voulu essayer de leur apporter des bribes qui leur manquaient, de manière à ce qu'ils se construisent d'une manière plus forte. Et puis qu'ils sachent qu'il y a autre chose que le parc Bellevue à Marseille. Donc d'où toutes les classes vertes, classes rousses, les sorties à la ferme. Donc j'ai essayé de les ouvrir vers l'extérieur. Et peu à peu, on est passé du quartier vers la ville, puis de la ville vers Paris. On a fait une classe grise à Paris. Ça, c'est mes collègues qui se moquaient de moi qui appelaient ça une classe grise. Et puis de Paris, ben, on est parti vers l'extérieur, le monde.
Alors j'y étais venu déjà il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, du temps où Henri Mandril était chef de projet, ça fait même peut-être plus de 10 ans. Je suis arrivé là, j'ai trouvé ça visuellement très violent.
Je me souviens d'un été, où ça devait être le premier été où j'étais sur Bellevue, où les poubelles n'étaient plus ramassées à l'angle du A et du C, quand il y avait encore le C13, et où il y avait 40 cm ou 50 cm d'ordures au pied de l'angle du A3-C13, et qu'il y avait un chemin entre l'entrée du C13 au milieu des poubelles. On aurait dit qu'on était à Calcutta ou dans je ne sais pas quel bidonville où on voit...
On avait le bâtiment A3, des enfants et le bâtiment A3 c'était le bâtiment. Des chemins qui se forment au milieu. C'était le fameux bâtiment. Le plus insalubre de Marseille, je vais dire le plus insalubre d'Europe, on va dire. À un moment donné, sans être trop marseillais. À l'intérieur, c'était le bâtiment C13 était collé au bâtiment A3. Au milieu, il y avait une coursive. Et dans cette coursive, les gens jetaient la poubelle. Il y avait des fois, sans exagérer, je pense, entre 10 et 15 mètres de poubelle à l'intérieur de la coursive. C'était incroyable, quoi. Il y avait une puanteur pas possible. Et que bon, il y avait des tonnes de poubelles, quoi. Et au fur et à mesure, ils ont vidé le bâtiment en A3. Et c'est de là qu'est partie la réhabilitation. Ils ont tout muré et on a commencé à casser le bâtiment en A3 et le C14 et C13.
Quand les travaux ont réellement commencé, les politiques, donc, ils ont besoin de visibilité. Hein, à l'endroit le plus symbolique du parc Bellevue, devant le bâtiment C. Ils ont installé 2 tentes avec les petits fours offerts par un grand traiteur. Borloo est arrivé, il s'est mis dans la grue et il a commencé à casser le bâtiment C symboliquement, c'était très fort. Ce qui était très marrant, c'est que les tifours de ma roue pendant que moi je regardais le ministre en train de casser son bâtiment C. Là, les gamins venaient me tirer le pantalon et me demandaient: Jean-Pierre, ce qu'il y a sur la table, c'est halal?
C'est un passage qui n'a pas, à mon avis, de toute façon, tous les espaces nouveaux de la cité n'ont pas encore acquis leur maturité. La réhabilitation n'est pas complètement finie puisque les murs pignons sont pas finis. Donc cet espace, à terme, qu'est-ce qu'il deviendra? Je pense qu'il prendra tout son sens quand l'arrière du bâtiment sera aussi réhabilité.
En fait, je suis pas née ici. Je suis née en Algérie. Je suis venue toute petite, en fait, au berceau. Et puis, j'ai fait mes études ici. Et j'avais mon père qui travaillait ici et ma mère qui est en Algérie avec ses enfants. Elle a fait 6 enfants en Algérie. Et quand on est arrivé ici, j'avais 2 ans, 3 ans. C'était en 80, je suis arrivée en 83. J'ai grandi dans ce quartier. J'habitais dans le bâtiment qui se trouve au C13 qu'ils ont détruit. On a déménagé 3 fois. Alors on a habité au rez-de-chaussée. Puis après on est monté au 10e étage. On avait une vue magnifique de la mer. Et puis, on est redescendu du premier étage. Et puis, de là, on a déménagé encore. On est venu habiter dans les petits blocs. 11 ans dans les petits blocs et 13 ans dans les C.
Bah, c'est un arbre qui vient d'être planté récemment. Je pense qu'il y a 6 mois, 1 an. Et il est déjà bien abîmé. Et je me demande s'il va tenir très longtemps. Voilà, à la place du bâtiment à 2, à 3. Qui viennent d'être démolis.
Moi, ben, je suis... Moi, en fait, je suis un peu de partout, quoi. Je suis... J'ai été en contrat d'emploi jeune dans une association, puis je me retrouve dans une autre association en contrat d'accompagnement. En fait, je suis un peu de partout. Pourquoi j'ai choisi ça? Ben, je sais pas. En fait, j'ai commencé par un BAFA, parce que j'avais envie de bouger. Parce que comme il y avait toujours ces mentalités un peu dans les familles, parce qu'on pouvait pas trop sortir et tout ce qui suit... Alors j'ai commencé à passer un BAFA pour me dire que plus tard je pourrais voyager et qu'ils vont comprendre que je pars avec le boulot. Puis de là, ça a commencé comme ça et j'ai toujours continué comme ça. J'ai continué dans ce chemin et puis je suis rentrée dans le social et ça a commencé par des échanges. Et puis après, ça a commencé par des voyages pour montrer que je puisse partir, que leur montrer qu'il faut me laisser, quoi. Et ça a ouvert une grande... En fait, ça a ouvert la liberté. Je me suis battue pour avoir la liberté. Et à un moment donné, il faut bouger. Et on apprend mieux ailleurs, quoi. Puis après, essayer de revenir.
On voit la sortie du métro qui arrive à Bougainville et toute une partie derrière le bâtiment A qui appartient à la ville et dont les projets sont en attente et qu'il est urgent au moins de démolir pour sécuriser ce lieu et faire un aménagement provisoire en attendant un projet définitif. D'une démolition qui, a priori, va être programmée, mais dans beaucoup trop de temps pour moi. Donc une démolition qu'il faut faire en urgence, parce que de toute façon, c'est un lieu porteur d'insécurité. Il y a des éléments du bâti qui peuvent tomber sur les gens qui passent. C'est un lieu où les gamins jouent. C'est un lieu qui, aujourd'hui, est squatté au début de la traverse Caravelle, avec tous les problèmes sanitaires que cela comporte.
Il y a des enjeux extrêmement importants autour de Bellevue qui se dessinent, l'extension de Romède. Il y a eu des études urbaines très volontaristes qui ont été conduites sur tout ce qui se passe à l'ouest de Bellevue, du parc Bellevue, les docks libres, les terrains qui ont été acquis pour le collège et toutes les friches industrielles qui sont encore là. Et là, je pense qu'il faut que dans le deuxième cours du deuxième plan de sauvegarde, moi j'imagine que le parc Bellevue va se mettre dans cette perspective de développement sur les 10-15 ans qui viennent. Créer un véritable morceau de ville, quoi, avec ces différentes fonctionnalités, à la fois les fonctionnalités du travail, mais les fonctionnalités d'habiter, vivre en ville, avec des équipements, des espaces verts. Et c'est pour ça que le projet est centré sur un projet qui pourtant vise à densifier la ville, à faire un certain nombre de milliers de logements, je n'ai pas le chiffre en tête, et il est autour quand même d'un gros espace vert qui est un poumon au milieu du quartier.
Vous allez mettre l'ascenseur, mais je ne suis pas seulement en verre. Donne-moi la terrasse.
Le bâtiment B12, ça avait été la première tranche de réhabilitation qui avait été signée en grande pompe en 1994 par l'équipe à Vigourou. Et ils nous avaient promis collectivement Monts et Merveilles. C'était Hollywood qui nous était proposé avec réhabilitation du B, due à expropriation. Et nous, on était là, on y croyait. Et puis un jour, ils ont commencé à repeindre la façade du bâtiment B. Et puis ils se sont arrêtés. Alors on leur a posé la question, mais pourquoi vous vous êtes arrêtés? C'était un peu plus compliqué que ce qu'ils se l'imaginaient. Parce que société anonyme immobilière, copropriété, dette de la copropriété, mais aussi dette des SAI, etc. etc. Donc on y a cru à ce début de travaux de réhabilitation, mais elle s'est arrêtée brutalement. Et alors entre l'arrêt de la réhabilitation du bâti, donc du parc, mais le bâtiment B avait été refait, et le début de la mise en place du plan de sauvegarde, là ça a été une période qui a été très 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 difficile pour le parc Bellevue, parce que comme c'était on va dire entre deux dispositifs, à savoir une première tranche de réhabilitation qui n'a pas abouti et un plan de sauvegarde qui se mettait en place, c'est clair qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, ben, ils gèrent l'urgence, mais ils ne vont pas mettre un troisième dispositif. Donc, ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé à un moment donné dans une cité, mais c'était la décharge d'entre cinq, quoi, mais à tous les niveaux.
Venez mettre l'ascenseur, je ne suis pas seulement en réel. Donne-moi la clé de la terrasse. Là. Ma maison est en face de la mer. Hein, j'ai un T3. Hein, je l'entretiens, je fais tout. Voilà. Alors, quand je vois que ça commence à se dégrader, ce n'était pas concernant ma maison. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont occupants, qui ont une seule maison. C'est leur bien. Et en plus, ça, ils habitent dedans. Ce sont des locataires comme moi. Alors, on s'est réunis. Enfin, je suis allé voir un peu les gens qui arrivent au bâtiment A et au bâtiment C, parce que le problème venait de là. J'ai créé une amicale de locataires. Avec cette amicale de locataires, je suis allé voir ce du bâtiment. Bon, le bâtiment B a été réhabilité, c'est bon. Alors, on a fait du porte-à-porte, on s'est rassemblé un peu au stade. Et j'ai rencontré la CAF auparavant. J'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on nomme un syndic judiciaire avec le tribunal? Et vous serez d'accord pour que les propriétaires, les locataires, ne payent plus le loyer aux propriétaires véreux, aux marchands de sommeil. Et on faisait signer des 6 bois sans CAF aux locataires. Est-ce que tu es d'accord pour continuer à vivre avec de l'eau qui tombe dessus, monter à pied, pas de boîte aux lettres, les vides d'ordures, tout ça qui éclate et tout, les vols? Comment on fait? Vous êtes d'accord pour qu'il y ait des changements, les ascenseurs et tout? C'est normal, quand vous voyez un locataire qui paye, il n'a rien. En plus, ça, il paye, c'est même pas ce qu'il paye, parce que c'est la CAF qui paye directement. Ils m'ont dit d'accord, j'ai dit, alors vous signez là, à l'avenir, votre propriétaire n'encaissera plus rien. C'est le syndic judiciaire qui va être nommé par le tribunal, c'est lui qui va encaisser. Et à partir de là, voilà, on a commencé à s'ébrouer à son CAF, on a enlevé le loyer, on a fait passer tous les copropriétaires défaillants qui ne voulaient pas sortir de la société, on les a fait passer au tribunal. Et ils ont été déboutés de leur bien, et la CAI a éclaté, et le plan de sauvegarde a été instauré au niveau du bâtiment A et au bâtiment C. Et après, à partir de là, bon, on est retombé dans le cadre de la réhabilitation. Parce que tous les travaux se faisaient par l'intermédiaire de l'État. C'est-à-dire l'État avec la réunion, conseil général, conseil régional, ville et tout ça. Et l'amicale était présente dans toutes les réunions, moi. Alors à partir de là, ils ont dit, bon, on va nommer un opérateur qui va être le pilote du plan de sauvegarde. Et ils ont nommé l'OGIRAM, en ce qui concerne... c'est lui le pilote du plan de sauvegarde. Et Marseille Habitat, ce qui concerne la démolition et le rachat des appartements.
D'abord, je crois que je n'ai jamais mesuré le travail qu'il y aurait à faire. On était tellement sollicités par des événements qui étaient à la fois des événements très, très factuels. Il n'y a plus d'eau bâti à l'entrée à 8, la colonne a pété, ça fait 8 jours que les habitants ne sont plus distribués en eau. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on était sollicité par ces événements au quotidien où on voulait montrer aux habitants que c'était vrai qu'il y avait d'un côté le plan de sauvegarde qu'on était en train de leur annoncer qui allait se mettre en place, mais que ce n'était pas simplement un projet qui allait aboutir un jour, mais que si on était là, c'était aussi pour leur donner des réponses au quotidien sur un certain nombre de choses. Et d'un autre côté, il y avait un travail titanesque de construction d'un projet financier très important dans un contexte juridique très fragile. Et si on avait analysé de manière posée ce qu'on était en train d'essayer de faire, bon, tout le monde aurait dit non, c'est impossible. Et en fait, je crois que c'est parce qu'on ne s'est pas posé la question, on ne s'est pas dit on ne peut pas y arriver. Donc on a avancé et on a réglé des problèmes qui étaient parfois des problèmes lourds, graves, compliqués, en se disant il faut trouver une solution. C'est pas possible, il faut trouver une solution, on va la trouver. Quant à monter le projet dans une copropriété, c'est une expérience qui est unique en France, qui était unique en France et qui, aujourd'hui, je crois, le reste.
Alors ici, c'est le bâtiment B, c'est le plus haut bâtiment de la cité, avec une réglementation d'ailleurs très spéciale, puisque c'est un immeuble de grande hauteur et qui nous pose beaucoup de problèmes, qui a commencé à être réhabilité, dont la réhabilitation a été interrompue il y a 6 ans de ça. Et aujourd'hui, c'est un immeuble dont on connaît mal le devenir encore, parce qu'il y a des graves problèmes techniques à surmonter dessus.
Il y a une enquête publique qui a été faite. C'est lui qui ne fait pas les travaux, il sera exproprié. Mais là, attention, hein. La Marseille Habitat, et comment ça s'appelle, la ville de Marseille, il ne faut pas qu'ils exproprient les gens pour rien, parce que beaucoup de gens n'ont pas été avertis correctement, ou ils ne savaient pas lire entre les lignes. Alors, l'enquête publique a été faite, il y en a qui ne se sont même pas présentés. Et aujourd'hui, on leur dit, c'est trop tard, il fallait vous présenter avant, non ? C'est pas légal. Il ne faut pas mettre le couteau sous la gorge des gens. Si vous voulez la réhabilitation, il faut discuter avec le copropriétaire, faire une autre réunion, venir à l'Assemblée générale, provoquer une Assemblée générale extraordinaire et leur dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour faire les travaux ou est-ce que vous êtes d'accord pour vendre vos biens? Il ne faut pas mettre le couteau parce qu'il y a des pauvres mémés qui n'ont pas les moyens de réhabiliter et qui ne savaient pas, ils ne connaissaient pas leurs droits. Il faut les réinformer. Hein, il ne faut pas mettre le couteau sur la gorge et leur dire, voilà, c'est trop tard, on vous prend la maison. Attendez, oh. Oh, j'ai vu que vous avez interviewé tout le monde, ce que je vois.
Les arbres, ça fait partie d'un des éléments nouveaux du parc Bellevue. C'est sur la fin de la réhabilitation du mail urbain qu'on voit devant nous, là, qui a été exproprié et qui vient d'être fini d'être réhabilité. Ça veut dire que la copropriété avant était propriétaire, j'ai dire, des voies sur lesquelles passaient les gens, et ces voies sont devenues publiques. Ça veut dire que la ville de Marseille, on peut dire d'une certaine manière, l'a pris aux gens. De façon tout à fait légale, et l'a pris aux gens pour pouvoir effectivement les réparer, les transformer, les améliorer.
C'est mieux qu'avant. Hein. Avant, on ne peut plus passer dans notre quartier, là, dans l'autre boulevard. Ça, c'était tout pourri, c'est personne qui passe là. Maintenant, c'est. Le soir, quand ça allume les lumières, ça fait beau. Ça fait. On dirait Noël, là, c'était boulevard. Parce que c'est tout abîmé là, ce quartier-là. Encore on est mieux, la police ici à côté. Donc il n'y a pas. Avant, il y avait des années en arrière, c'était un peu le Bronx, mais ça va mieux maintenant. Voilà. Maintenant, il y a moins de vols, il y a moins de casses dans les appartements. Maintenant, il n'y a plus de vols. C'est bon, c'est un peu mieux. Mais avant, quand tu pars pour travailler, au retour, quand tu reviens, la maison, c'est. Mais moi, avant, il y a une dizaine d'années, 10 années en arrière, les assurances, ils n'acceptaient pas. Et parce que tout le jour, ça casse les appartements. Maintenant, ça va, maintenant, le vol, c'est parti. Là, ils acceptent parce que maintenant, il y a moins de casses. Il y a moins d'effets. Voilà. Avant, c'était qu'ils brûlent les voitures. Ils piquent les voitures. Le soir, ils brûlent. Maintenant, ça va. Il y a moins de voitures brûlées, tout ça. Là. Ouais.
Ah, c'est Marcel. Attends, j'ai presque. Bonjour madame, c'est quoi?
Le plan tout seul est arrivé en 89. Le grand plan tout seul est arrivé en 89, je pense. Avant, il n'y avait rien. Et que là, du jour au lendemain, on a des animations, les gens descendent vers le centre social pour savoir ce qui se passe. En premier, c'était un objet de curiosité. On y rentre pas. On a changé beaucoup de mentalité aussi. Puisqu'il fallait changer la mentalité des maris. Non, ma femme, elle y va pas, mon enfant aussi. La mentalité des frères par rapport aux sœurs. Et depuis maintenant, on essaie de, tant bien que mal, de survivre. De le déplacer, ce serait pas mal. Quoi. Parce qu'on serait moins ancré et on serait moins au niveau affectif. Et à un moment donné, quand les gens sortent de la cité, ils ne sont pas les mêmes. Parce que dans la cité, ils sont chez eux. Ils se sentent à l'aise. Et à l'extérieur, on se sent un peu plus citoyen, on va dire. Et d'être constamment sur le site, constamment de dire, ouais, effectivement, le centre social est en bas, ben je descends. Je peux descendre en pyjama, non. Le centre social est comme une mairie, le centre social est comme quand on va chez un avocat, le centre social est comme footlooker quand on va chez une paire de baskets, on y va habillé. Et bon, le centre social, on y rentre habillé aussi.
Alors, jusqu'à présent, là, le bâtiment ne possédait aucune terrasse Lorsqu'on a réfléchi sur les hypothèses d'aménagement, ben on a proposé à l'OGIREM d'aménager des terrasses au rez-de-chaussée. Et ces terrasses sont privatisées. Elles sont destinées aux locataires du rez-de-chaussée. Alors pourquoi ces terrasses ? La première chose, c'est que nous, il nous semblait que sur la promenade qui passe devant le bâtiment A, il était important de protéger visuellement et physiquement l'intérieur des logements par rapport à tous les gens qui passent devant le bâtiment. Et puis, il nous a semblé intéressant aussi d'offrir au logement du rez-de-chaussée un petit plus, qui est cette terrasse qui permettrait d'avoir un petit prolongement extérieur. Et d'ailleurs, les logements du rez-de-chaussée vont accéder dans leur logement depuis la terrasse sud. Alors, c'est pas tout à fait fini. En fait, il y a une pierre de couronnement qui doit arriver au-dessus, qui va finaliser le projet. Et l'idée, c'est de trouver quelque chose qui soit ajouré pour ne pas être trop massif, mais qui en même temps protège bien visuellement l'intérieur du logement quand on passe sur l'espace public.
Frigo qui tombe du balcon, l'image reste, elle est dure à effacer.
Alors, ces problèmes de jet d'ordure, c'est un problème qui est en train de s'améliorer. Lorsqu'on est arrivé au début, il y avait énormément de jets depuis les balcons, de l'eau, mais aussi des sacs, divers objets. Et c'est quelque chose qui est en train de s'améliorer, d'abord parce qu'il y a eu le chantier, et donc il a été demandé aux locataires de rien jeter sur les balcons, depuis les balcons pour ne pas blesser des gens qui travaillent sur le site. Et aujourd'hui, c'est en train de s'améliorer, et l'OGIREM a sensibilisé les locataires, le centre social également y participe, au fait que il est dangereux de jeter des choses par les fenêtres. Et je pense que ça va s'arranger petit à petit. Et que les CG vont cesser.
Alors, sur la réhabilitation du bâtiment A, l'OGIREM a fait des choix de réhabilitation, des choix de matériaux techniques. Il est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à reprendre. Après, aujourd'hui, j'en connais pas vraiment la nature. Mais quand on voit le centre social, comment les travaux ont été mal finis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal alors à savoir si c'est effectivement une histoire de coût ou une histoire de compétences, à trouver des entreprises qui font des finitions extrêmement correctes.
Tout d'abord, on a rencontré un bâtiment qui avait des supports qui étaient très dégradés. Donc on a eu d'énormes difficultés pour la tenue des supports. Lorsqu'on a fait les premiers travaux, on avait prévu du papier peint. Et puis on a rencontré des problèmes techniques importants. Donc par la suite, ce papier peint a été supprimé et a été remplacé par une peinture gouttelette qui est beaucoup plus résistante, qui vieillit mieux, qu'on peut repeindre et qui permet d'améliorer les prestations plus durables. Ensuite, il y a des problèmes de tenue générale des peintures. Donc les choses sont reprises dans le cadre de l'année de parfait achèvement des travaux. Alors c'est vrai qu'il reste des endroits où la peinture se décolle. On a rencontré également des problèmes de mode d'habiter, c'est-à-dire que dans les châssis, il y a des ventilations qui permettent de renouveler l'air, et dans les pièces où il y a énormément d'habitants, des chambres où il y a 3, 4 lits, il y a beaucoup de vapeur d'eau. Et les gens, l'hiver, rebouchent les bouches de ventilation, il y a de la condensation, et ça pose des problèmes difficiles. On améliore notre système, et globalement, chaque fois qu'un nouveau locataire rentre dans un logement, avec des mutations de locataires, les travaux sont en règle générale repris par l'OGIREM pour reprendre des parements neufs.
On peut parler des bâtiments, les petits choux là. En pseudo-raffinement artistique, il y a les pignons qui sont en apparent béton brut de décoffrage. Alors je ne sais pas si c'est vraiment du brut de décoffrage. Alors le brut de décoffrage, c'est inspiré par Corbu, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est une manière de faire du béton que je trouve assez belle, hein, qui s'est arrêtée dans les années 60 parce qu'on a eu d'autres systèmes beaucoup plus économiques et raffinés pour faire des murs en béton. On s'est mis à les faire très lisses. On a inventé les coffrages plus tard, après Félix Pierre, on a inventé la manière de faire des bétons très lisses sans enduit, juste en sortant du coffrage. Là, on est encore avant, donc ça a un côté artisanal. On voit que les planches sont posées à la main et que chaque planche a un peu de jeu par rapport à ses voisines. C'est la maigre trace du travail de l'homme.
Et c'est une petite rudesse qui est pas mal, que j'apprécie le plus souvent. Mais là, elle est pas mal, en fait. Ouais. Elle prend bien la lumière, maintenant.
Les petits bâtiments, voilà. Maintenant, il y a un problème, voilà. Si on continue comme ça, dans la lancée où on va faire du surplace. Et ça va être grave pour les bâtiments qui ont été réhabilités. Hein, parce que on n'aura fait que déplacer le problème. Parce que si on ne fait pas attention à ce qui se passe dans les petits blocs, et si on ne réhabilite pas les petits blocs, c'est rebelote. Ça va retomber encore d'ici quelques années, ça se dégrade là-bas, et au fur et à mesure, ça va se dégrader là aussi. Et après, ils vont reprendre là-bas, et ici, ça sera dégradé. Alors il est temps pour que là-bas, il faut qu'ils fassent du boulot. Il ne faut pas qu'ils prennent que le D, le E. Il y a les petits blocs de l'autre côté, il faudrait qu'ils s'en occupent. Parce que les marchands de sommeil, il y en a de partout. Hein.
Une couche années 80 avec les paraboles, ça n'a jamais été prévu pour que ce soit peuplé de paraboles comme ça. Alors c'est une architecture très rigide, très angle droit, qui des fois a de la très haute échelle, quoi. Ça fait 13 étages au bout, le B là-bas. Et maintenant par-dessus, tu as les paraboles qui rajoutent, c'est pas la varicelle, parce qu'au contraire, je les aime bien, elles flottent à la surface. Et puis on compare toujours avec les oreilles de Mickey, elles ont ce côté jovial et... Elles sont pas méchantes, les paraboles, quoi. Elles regardent toutes dans la même direction, en plus.
A été aménagée une antenne, des antennes satellites collectives. Donc, toutes les paraboles vont disparaître. Et puis, nous avons intégré en façade des éléments de claustrat qui permettent de protéger visuellement, au niveau des cuisines, l'étendage ou des petits meubles implantés sur les cuisines.
Je vois les gens, ils sont habités ici. Ils sont gentils. Il y en a qui sont... méchant, il y en a que le gentil, il y a que le méchant. Mais ici, il n'y a pas de sécurité par rapport à l'autre quartier. Parce qu'il y a la police là-bas, mais s'il y a des faits ou quelqu'un est malade, si tu l'appelles, il dit qu'on arrive, mais il vient, mais des fois il vient, des fois il ne vient pas. Il dit on va venir, mais. On ne voit pas.
On n'arrivera pas à changer la situation de Bellevue tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes un certain nombre de problèmes du chômage. Quand on a 70-75% dans certains bâtiments, et en tout cas chez nous, de gens qui vivent des prestations sociales au sens large du terme et qui sont sans emploi, y a un problème que nous, on ne peut pas mesurer, maîtriser. Si on n'est pas capable d'offrir de l'emploi adapté à ces personnes-là, on restera toujours dans des situations précaires. Sur le rapport à l'école, sur le rapport à la délinquance, ça c'est des paramètres que nous on a du mal à maîtriser en tant que bailleur social. Donc, et c'est en ça que le nouveau plan de sauvegarde, je dirais que la personne la plus impliquée c'est le chef de projet contrat de ville, au sens où c'est lui qui peut peut-être mieux que ce qu'on ne le ferait nous, maîtriser tous ces paramètres. Nous, on les a arrêtés, les réunions de concertation, celles qu'on menait au travers du premier plan de sauvegarde, parce que on n'avait plus de réponses. Les questions auxquelles on était soumis n'étaient plus des réponses techniques, plan de sauvegarde stricto sensus, mais c'était des réponses « Ouais, moi, ça fait 3 ans que je suis au chômage, j'ai un nom qui ne plaît pas, j'arrive pas à trouver d'emploi. Moi, j'ai pas de réponse, et c'est pas un bailleur social de donner des réponses sur ce thème-là.
Alors moi, je suis arrivée le 18 août 1982 à Marseille. On est originaire de la Tunisie. Alors direct, on est arrivé à la tour, au bâtiment B11, au 5e étage. On n'a jamais changé d'appartement. Voilà. Maintenant, moi, j'habite au D23, qui est un petit bâtiment de 5 étages.
Il y a un nouveau plan de sauvegarde qui va démarrer, qui aujourd'hui est à l'élaboration. Au-delà des reprises techniques, dont certaines, à mon avis, il y aura un certain nombre de reprises techniques à prévoir. Et il y a aussi tout un travail, je veux dire, avec les gens d'une façon générale et avec les propriétaires d'une façon générale à faire. Avec les gens sur le mode d'occupation, au-delà des reprises techniques, sur le mode d'occupation et d'entretien des logements. Et après avec les propriétaires pour qu'ils puissent reprendre en main leurs biens et leurs propriétés et pour qu'ils se réinvestissent dans la gestion de la copropriété.
À l'extérieur, on avait une mauvaise image de la cité Bellevue. J'ai un petit peu 3, j'ai 2 enfants, je voudrais changer, avoir un grand appartement. C'est vrai qu'on refuse de particulier à particulier, ça ne marche pas. Quand on dit rue Félix Piat, ça tape. C'est flash, c'est dans chez tout le monde. On a une mauvaise image du quartier. On dit que c'est des délinquants, ils n'ont rien dans la tête. Et voilà. Je veux dire, si j'avais une grande maison, un grand appartement, je ne partirais pas de la cité. Non, non, je ne partirais pas. On a tout à proximité. Lorsqu'il y a eu des grèves de la RTM, eh ben, on pouvait très bien se rendre à pied en 10 minutes, un quart d'heure au centre-ville. On est situé entre la station Bougainville et Nationale. Je veux dire... C'est vraiment très, très bien. Les commerçants sont ouverts jusqu'à 21h du soir. Puis on est bien, je vous dis, on se sent dans une grande famille.
Entre l'annonce de la mise en place du plan de sauvegarde qui date de 99 le premier coup de pioche, il s'est quand même passé un petit moment. Hein. Donc ça veut dire qu'il a fallu qu'il y ait toute une phase de concertation, mais parce que c'est obligatoire, la loi l'impose.
La concertation, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on a associé les gens au processus de mise en place et de la réhabilitation. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été décisionnaires de tout, bien au contraire, mais ils ont été associés et régulièrement informés et qu'un certain nombre de choses, de remarques ont été prises en compte. Il est vrai que les grandes décisions d'expropriation et tout ça, c'est vrai qu'on est sur des procédures qui sont complexes, qui sont difficiles à comprendre pour les habitants. Sur le parc Bellevue, y compris certains techniciens, dont moi-même, on n'a pas tout compris tellement. Hein, on a soulevé des lièvres, des choses, des situations juridiques, je dirais, hors normes, dont la compréhension est extrêmement difficile. Et c'est vrai que la concertation... Alors, il y a eu des réunions de concertation pendant le précédent plan de sauvegarde. Je crois qu'il y en a eu 50 entre 2000 et 2005. Mais il est vrai que c'est extrêmement difficile d'expliquer simplement aux gens ce qui se passe. Je pense que c'est plutôt... Non, je ne vais pas donner une mauvaise excuse. C'est plutôt une pratique de travail, je veux dire, qu'il y a en France où, effectivement, la concertation n'est pas vraiment développée. La concertation, ça veut dire prendre énormément de temps avec les gens pour bâtir les opérations. Et il est vrai qu'en France, on a quand même une culture où les élus décident et informent les habitants.
J'ai voulu valoriser les enfants et les habitants de ce quartier, qui ne l'étaient jamais, sauf quand il y avait des voitures brûlées, des histoires, voilà. Et moi, je voulais montrer que dans ce quartier, il y a des gamins et des familles extraordinaires, des bons élèves, des familles tout à fait correctes, voilà. Et donc, je me suis dit, en voyageant à l'étranger avec un passeport soit français, soit comorien, soit algérien, ils représentent quand même quelque part la France. Et du coup, j'ai rencontré des familles qui, pour qui c'est un rêve. C'est pas que la mère et le père, les cousins, les tantes, les oncles. Quand on est parti en Amérique, il y a 10 ans, mais c'était phénoménal. On est revenu en car. Il y a un car qui est venu nous chercher à Marignane, mais il y avait tout le monde aux fenêtres. C'était comme si on revenait de la Lune. Et après, quand il y a eu le reportage d'Envoyé spécial qui est passé 2 mois après, alors là, on est devenus les stars de Marseille. Les petits du parc Bellevue qui sont allés aux États-Unis chez les Indiens, qui ont dormi sous les tipis, etc., etc. Et là, j'ai compris qu'il fallait comment les valoriser et comment essayer de travailler un peu avec la presse pour montrer une image positive. Et puis les familles aussi, on les fait rêver par ce genre de choses. Une, elle m'a dit, c'est comme si je gagnais au loto. Ma fille, elle a la chance de faire quelque chose que j'ai jamais pu faire moi-même, tu vois. Et puis en même temps, ça les oriente dans leur vie professionnelle future. Ils n'ont pas envie d'être femme de ménage ou RMiste. Ils ont envie d'être enseignants, médecins, infirmières. Bon, même s'il y en a qui ont des moyens plus limités, à l'époque, elles disaient médecins. Maintenant, infirmières, elles savent que c'est à leur portée, tu vois. Il y en a de plus en plus qui font des études. Et en même temps, je veux rester dans ce quartier parce que je veux que ça soit ce quartier qui soit valorisé. Je pourrais très bien aller dans des écoles du centre-ville. Les gamins, ils me payeraient. J'aurais plus besoin de chercher de subventions ni rien. Ça ne m'intéresse pas. Ces gamins-là, ils peuvent aller avec leurs parents. Eux, c'est une chance. Donc, je veux que ça soit eux qui la saisissent, eux qui la vivent, qui travaillent pour y aller, qui travaillent une fois qu'on en revient. Et puis qui voient dans une optique différente de leur futur.
Si j'ai dit nous.
Il y a une chose que je pense, comme on dit, chaque personne doit avoir un projet, qui est mon projet à moi, d'assumer ma responsabilité, que demain, dès que mes enfants sont grands, Je n'ai pas besoin qu'il travaille à un patron. Je m'aimerais bien qu'on travaille en famille. C'est mes projets que j'ai, que de me forcer à travailler très, très dur, que mes enfants, on travaillera en famille. C'est ça, j'ai que ça dans ma tête et ça me permet de travailler très, très, très dur, de que mes enfants ils sachent que chaque fois je leur dis que j'ai de l'argent, je travaille dur pour eux, que demain on travaillera en famille. Je n'ai pas besoin de que mes enfants travaillent avec quelqu'un, de l'envoyer chier, de parler comme on est, n'importe comment. Mais moi, mon espoir, c'est mes enfants.
Avec mes enfants, je suis là avec mes enfants. Je ne travaille pas. Ils sont 6. J'ai envie de... qu'ils sont héros. Ils sont heureuses. Ils sont à l'école, ils sont prêts à lire, à écrire. Parce que moi, je n'ai jamais allé à l'école. Mais j'ai... bientôt, la rentrée, je vais aller apprendre à écrire et lire. J'ai fait un stage. J'ai envie de travailler, mais comme je n'arrive pas à lire et à écrire, ça ne marche pas.
Je voulais devenir aide-soignante, mais après, comme ma prof l'a dit, j'ai la capacité de suivre pour devenir infirmière et j'ai suivi son conseil. Et maintenant, je vais préparer mon bac pour faire bac SMS et passer le concours pour aller en école d'infirmière, pour devenir infirmière.
Zubaïda, Ayuba, Zainaba, Shebani, Amfina, Inchati, Faiz, Soua.
La cité Bellevue est connue de partout, en France, du nord au sud, à l'est à l'ouest. Même en Tunisie, quand je vais en Tunisie, on parle de la cité Bellevue. On dit que c'est une cité pleine de paraboles, chaque balcon a une couleur, que c'est vraiment le souk, voilà.
Si je dis nous.
Chaque personne doit avoir un projet.
Nous.
Projet.
Si je dis nous.
C'était Bellevue Monument. L'équipe du Compas dans l'œil remercie tous ceux qui ont rendu possible cette promenade. Merci aux habitants de Bellevue, aux opérateurs, aux responsables associatifs, au centre social, aux amis. Et merci à l'école du Parc Bellevue, à sa directrice et son équipe qui, à ce jour de septembre 2006, se battent pour que tout enfant puisse suivre sa scolarité en famille avec ou sans papiers.